Club Radio RZL. Bonjour à tous, bienvenue sur la radio des lycéens du lycée des métiers Elsa Trier. Ici Jade de la seconde accueil. Aujourd'hui, nous sommes le 17 avril 2018, il est 15h30 et nous nous retrouvons pour notre deuxième émission web radio de l'année scolaire. Je serai accompagnée de Laura tout au long de cette émission.
Salut tout le monde! Pour débuter, Ayanis, Rudy et Angelina vont nous présenter notre section accueil.
On continuera avec Cyprien, Asia et Dorian qui vont vous expliquer comment se sont passés nos premiers stages.
Ensuite, Tiamel et Mel seront au rendez-vous pour nous parler des ambassadeurs contre le harcèlement. Les réseaux sociaux, un sujet important, sera abordé par Balou, Colin, Annel et Justine.
Nous parlerons ensuite de fast-food avec Lauriane, Solène et Flavien. Mais qui dit fast-food dit sport, n'est-ce pas? La rubrique sport sera réalisée par Thomas, Baptiste, Hugo, Anaïs et Charlotte. Et aimez-vous le cinéma? Justine, Alessandro et Ruben vous feront part de leur coup de cœur.
Pour poursuivre la rubrique culture, nous écouterons la classe de 2G1 qui a eu la chance de rencontrer Shadia Louis-Eslati, auteur de bande dessinée.
Enfin, pour terminer, un quiz musical pour tout le monde avec Ayamis, Angelina et Rugi.
On commence par Rugi, Ayamis et Angelina de la section Arcu, grâce à qui vous serez tous sur notre filière méconnue. Bonjour Rugi, Ayamis et Angelina.
Bonjour tout le monde.
Tout d'abord, que veut dire Arcu?
Arcu veut dire accueil relation client usager. Dans cette filière, l'accueil est un domaine basé particulièrement sur le face-à-face et le relationnel. Nous pouvons être amenés lors de nos stages à réaliser de l'accueil et de la vente.
Nous devons également être capables de réaliser des activités administratives et des travaux informatiques. Pour être chargé d'accueil, il y a donc des compétences à acquérir, comme connaître des méthodes mémotechniques. Pour mieux accueillir, il faut être polyvalent, réactif et agréable.
Le bac pro accueil est connu pour entrer dans le monde professionnel, mais aussi pour poursuivre des études. Cette filière permet d'accéder à plusieurs BTS, comme le BTS tourisme ou le BTS management des unités commerciales. On peut ensuite exercer les métiers d'hôtesse standardiste, d'hôtesse événementielle ou de téléconseiller par exemple.
Nous avons accueilli les impressions des élèves de seconde et de première actuellement en section accueil.
Bonjour, je suis en présence d'élèves de la classe des deux arcs, accueil relations clients usagers du lycée Elsa Tréolé. Je vous présente
Maëlle,
Charlotte,
Justine,
Baptiste,
Dorian,
Asia.
Alors je vais vous poser quelques questions. Aimez-vous la filière accueil?
Au début je voulais faire un CAP coiffure et en fin de compte j'aime bien cette filière.
Oui j'aime bien.
Oui.
Non je n'aime pas.
Oui je la trouve très intéressante.
Quel avantage trouvez-vous à cette filière?
On est dans le monde du travail.
On devient moins timide.
On apprend des choses.
Les stages.
On est moins timide, on est plus dans le monde du travail.
Tout comme mes camarades.
La conseillerez-vous à d'autres?
Oui.
Oui.
Ouais.
Non, parce que je n'aime pas le domaine.
Oui.
Me voilà en présence de Maria et Soazic de la classe de premier accueil des Atriolés. Alors, aimez-vous bien cette filière?
Oui, j'aime bien.
Oui.
Pourquoi?
Parce qu'on peut parler avec des personnes. On a les contacts avec
clients.
Quel avantage trouvez-vous à cette filière?
Ça vous apporte à plein de métiers.
Ouais, voilà. Il y a beaucoup de trucs qu'on peut faire.
Ouais.
La conseillerez-vous à d'autres?
Oui.
Oui.
Pourquoi?
Si ils savent pas tellement quoi faire en tant que métier, ouais. Agent d'accueil, ça va leur ouvrir plein de...
Il y a beaucoup de débouchés.
Ouais, voilà.
Merci. Au revoir.
Au revoir.
Comme vous avez pu l'entendre, c'est une formation qui ouvre de nombreuses portes et qui gagne à être découverte. Merci Ayamis, Angelina et Rugi. Pour compléter la présentation sur la formation Arcus, Cyprien et Dorian ont interrogé les élèves de la seconde pour recueillir leurs impressions après leur premier stage.
Bonjour, j'aimerais savoir comment as-tu trouvé ton stage?
En faisant une lettre de motivation et en donnant mon CV à plusieurs entreprises.
Grâce à de la famille?
Je suis allé à l'entreprise et j'ai déposé mon CV.
Mais c'est déplacé dans mon village.
Où est-ce que ça s'est passé?
À Courir au centre Barjouville.
À Timothée, à Chartres.
À Sport-Nova, à Luisan.
À Garlin, à Orphin.
À Buteau, à Bailleulpin.
As-tu bien aimé l'ambiance, tes activités?
Ouais, il y avait une assez bonne ambiance avec les salariés et j'ai bien aimé mon stage que j'ai fait là-bas.
Oui, il y avait une bonne ambiance.
Non, pas trop, je me suis ennuyée parce qu'il n'y avait pas beaucoup de tâches.
Tu peux nous dire quelques activités que tu as réalisées?
J'ai fait du zoning, vendu des chaussures et surtout aidé à la clientèle.
Ménage, j'ai fait les lits, j'ai fait la cuisine, enfin la plonge.
J'ai fait de l'accueil, accueillir des chauffeurs, préparer des visiteurs.
J'ai tamponné des chèques, j'ai encaissé, j'ai accueilli les clients.
J'ai fait des fiches d'inscription.
D'accord. Et si on te propose de le refaire, tu y retournes ?
Ouais, bien sûr.
Oui.
Oui.
Non, pas du tout.
Tu le conseilles à nos auditeurs ?
Oui.
Bien sûr.
Oui.
Non.
Ouais, moi je le conseille, il était bien.
Merci Cyprien pour ce micro-trottoir.
Avant de poursuivre notre émission, nous vous proposons d'écouter une page de publicité réalisée par les élèves de terminale CAP.
Vos cheveux ne poussent pas, vous rêvez des cheveux longs ? Essayez Shampousse. Un produit miracle. Avec Shampousse, vos cheveux pousseront plus vite. Ils seront plus tôt touchés.
Grâce à sa formule inédite composée de jojoba pour la brillance et d'aloe vera pour la croissance, vos cheveux pousseront de 3 cm par mois, vous verrez.
Le résultat est spectaculaire, magique, essayez-le vite.
Nous continuons avec Maëlle et Tiamel. Bonjour, de quoi allez-vous nous parler ?
Bonjour, aujourd'hui avec Maëlle, nous allons vous parler du harcèlement.
Pourquoi parler de harcèlement ?
Le harcèlement est un phénomène qui arrive tous les jours, ce qui est grave. Il faut stopper cela. Plusieurs élèves, ou même adultes, ont déjà été harcelés avec pour conséquence des dépressions et parfois même des suicides. Ce n'est pas acceptable. Au lycée, il y a des ambassadeurs qui luttent contre le harcèlement. Ils sensibilisent des élèves des collèges et des lycées pour mieux les prévenir contre le harcèlement et ses conséquences. D'ailleurs, je suis moi-même ambassadrice et je lutte contre le harcèlement.
Pourquoi as-tu choisi d'être ambassadrice contre le harcèlement ?
Tout simplement parce que je trouve que le harcèlement est un acte détestable qui peut être dangereux. Je souhaite sensibiliser les jeunes contre le harcèlement et les prévenir sur les risques que cela peut causer et faire en sorte qu'ils comprennent par la suite les dangers. Je veux aussi aider les victimes de harcèlement à parler et les empêcher de rester dans le silence. Au lycée, Vanessa Garnier est assistante de prévention et de sécurité. Elle a différentes missions au sein de l'établissement. Elle est en renfort en vie scolaire. Elle travaille en lien avec la CPE sur les exclusions de cours et les conflits entre élèves. Elle travaille aussi sur le projet « Lutte contre le harcèlement » avec des ambassadeurs. Elle a recruté et formé des ambassadeurs.
Nous l'avons interviewée.
Qu'est-ce que la journée « Non au harcèlement » ?
La journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire a été mise en place par le gouvernement en 2015. Elle a pour objectif de sensibiliser les élèves à ce phénomène qui a pris beaucoup d'ampleur ces dernières années. Donc pendant cette journée, il y a des animations qui sont mises en place sur le thème du harcèlement au sein des établissements scolaires. Le but, c'est de sensibiliser les élèves, en particulier ce jour-là, sur le sujet.
Qu'est-ce que les ambassadeurs contre le harcèlement ?
Les ambassadeurs contre le harcèlement, ce sont des élèves qui sont volontaires, qui souhaitent s'engager dans la lutte contre le harcèlement scolaire au sein de leur établissement scolaire. Donc, ils travaillent au sein de leur établissement sur un projet annuel qui est décidé en collaboration avec la CPE, l'APS. Et donc, les ambassadeurs sont formés par le rectorat sur une journée. C'est une journée pendant laquelle ils apprennent tous les contours du harcèlement, la définition du harcèlement. On leur apprend aussi leur rôle en tant qu'ambassadeurs et comment ils peuvent aider leurs camarades.
Quelles actions peuvent mettre en place les ambassadeurs pour sensibiliser les collégiens et lycéens ?
Dans le cadre de notre projet annuel de lutte contre le harcèlement scolaire au lycée Elsa Triolet, on a réfléchi à des animations qui pourraient être mises en place par les ambassadeurs du lycée pour sensibiliser les collégiens. Donc pour cette année, on prévoit d'intervenir auprès des collégiens par l'utilisation d'un jeu de cartes qui a été créé par les ambassadeurs de l'an dernier. Donc ce jeu de cartes va servir de base de travail pour animer et créer un échange entre les collégiens et les lycéens et les ambassadeurs. Donc cette intervention a déjà été réalisée l'année dernière avec succès au collège Édouard Herriot. Donc c'est une action qu'on envisage de reproduire cette année.
En cas de harcèlement, vous pouvez aller parler avec Vanessa ou avec un ambassadeur.
Merci à vous deux de nous avoir présenté votre sujet.
Le harcèlement existe aussi sur les réseaux sociaux. C'est le sujet que Balou a choisi avec Annaëlle, Colline et Justine.
Bonjour Balou.
Bonjour, je vais vous parler des réseaux sociaux. Nous avons réalisé un micro-trottoir au sein de notre classe pour savoir quels réseaux sociaux les élèves préfèrent. Combien de temps ils passent sur les réseaux sociaux et pourquoi ils s'en servent.
Quels réseaux sociaux préfères-tu ?
Snapchat.
Facebook.
Snapchat.
Snapchat.
WhatsApp.
WhatsApp.
Snapchat.
Instagram.
Snapchat.
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 Combien de temps par jour passes-tu sur les réseaux sociaux ?
4 heures.
1 heure, 1 heure et demie.
Tout le temps.
3 heures.
2 heures.
Ça dépend si j'ai des discussions avec.
Toute la journée.
4 heures.
5 heures.
Donc beaucoup de temps.
Une heure au moins.
C'est très rare.
Une heure ou deux.
deux heures.
Je m'ennuie.
Je sais pas. Pourrais-tu te passer des réseaux sociaux ou pas?
Ouais.
Oui.
Non.
Non.
Oui.
Ouais, un peu, ouais.
Oui.
Putain, non.
Oui.
Enfin, oui et non, en fait, c'est compliqué.
Je trouve que non.
Non.
On constate que le réseau social le plus utilisé est Snapchat. Les élèves l'utilisent pour savoir ce que font les amis et pour passer du temps. Les réseaux sociaux peuvent avoir des répercussions dangereuses sur les ados, comme le cyberharcèlement ou le non-respect du droit à l'image. Mais il peut aussi y avoir de bonnes répercussions comme le contact avec les amis, les échanges de messages et les partages de publications.
Merci Balou. Parmi les nombreuses publications, nous retrouvons beaucoup de photos de nourriture et notamment de fast-food. C'est justement le sujet de Lauriane, Solène et Flavien.
Bonjour, nous allons parler de notre travail sur les fast-foods. Nous avons choisi ce sujet car comme beaucoup de jeunes, nous aimons ce mode d'alimentation. Il y a quelques années, le jambon beurre était le sandwich préféré des Français. Mais depuis peu de temps, le hamburger a pris la tête de la restauration rapide. Alors pourquoi cette attirance envers les fast-foods? Nous avons interrogé nos camarades.
Bonjour, à quelle fréquence allez-vous au fast-food?
Pas souvent.
Une fois par mois.
Ah, ça va de temps en temps.
Ça dépend, une fois par semaine, deux fois.
Une fois par mois.
Deux fois par semaine, à peu près, ou moins?
Trois jours sur sept.
Une à deux fois par mois. Qu'est-ce qui vous attire dans les fast-foods?
Bah, c'est rapide.
Bah, à manger.
La nourriture.
Bah, c'est assez bon, déjà. Et c'est rapide. Et quelquefois, c'est pas si cher que ça.
Le prix.
Le bon manger.
Bah, ce qu'on mange.
Que c'est bon et puis c'est pas cher.
Que pensez-vous des effets des fast-foods sur la santé?
Bah, c'est assez calorique. Et c'est assez addictif aussi.
Ah bah, après, on grossit, hein.
C'est bon.
Que si on n'y va pas trop ou pas trop souvent ou pas, enfin qu'on en mange pas trop quoi, et ben ça passe.
Ça fait grossir.
Ah c'est pas bien mais c'est très bon.
Ça fait grossir.
Bah, c'est dommage. Parce qu'en fait ça fait du mal, mais c'est bon. Donc voilà, c'est dommage que ça fasse du mal alors que c'est bon.
Nous constatons que les jeunes aiment les fast-foods car le goût leur plaît. Ce n'est pas cher et cela permet de manger rapidement. Nous remarquons aussi qu'ils y vont fréquemment. Cependant, les élèves ont conscience que ce n'est pas toujours bon pour la santé. Un documentaire a d'ailleurs essayé de montrer les effets négatifs du McDo sur la santé. Il s'appelle Super Size Me, c'est Flavien qui va vous en parler. Bonjour Flavien.
Bonjour. Super Size Me, c'est l'histoire d'un homme qui a tenté l'expérience de manger McDonald's pendant un mois. Ça s'est mal passé car il a pris plus de 11 kilos, ce qui l'a amené à avoir des problèmes de foie. Les médecins lui ont conseillé d'arrêter, mais il a décidé de terminer son expérience. Son cholestérol a augmenté aussi. Il a mis plus de 14 mois à retrouver sa santé et son poids initial.
En conclusion, il ne faut pas abuser des bonnes choses.
Après avoir passé des heures sur nos téléphones puis manger gras et sucré au fast-food, il est urgent de faire du sport. Je laisse la parole à Thomas Baptiste qui ont travaillé sur cette question. Bonjour Thomas.
Bonjour.
Bonjour Baptiste.
Bonjour. Les enquêtes statistiques récentes montrent que la pratique sportive est en hausse en France.
Nous avons interrogé les élèves et le personnel pour connaître leur rapport au sport. Nous allons vous montrer que les jeunes, comme les adultes d'aujourd'hui, font toujours du sport.
Pour commencer, écoutons les élèves de notre lycée.
Quel sport pratiquez-vous?
Je ne pratique pas de sport.
Je pratique le basketball.
De la gymnastique.
Le football.
De l'aquagym.
À quelle fréquence?
Une fois par jour.
Deux fois par semaine, plus un match le week-end.
Deux fois par semaine.
Et pour quelle raison? Pour entretenir mon corps.
Parce que le sport, c'est important pour avoir un corps en forme et pour la confiance en soi-même.
Bah parce que j'aime bien ça et que ça entretient bien le physique.
Nous avons aussi interrogé les adultes de l'établissement.
Quel sport pratiquez-vous?
Alors moi je fais du vélo en salle de muscu, enfin en salle de sport quoi.
Alors je cours.
Du pilates et de la natation.
Moi je fais de la course en extérieur.
Ouais, moi je fais de la course à pied aussi mais sur un tapis.
À quelle fréquence pratiquez-vous ces sports?
Alors, environ trois fois par semaine.
Au moins une fois par semaine, voire un peu plus parfois.
C'est une fois par semaine en ce qui me concerne.
Alors moi, j'essaye de courir à l'extérieur à peu près tous les deux jours, donc à peu près trois fois par semaine.
Alors, moi, c'est trois ou quatre fois par semaine.
Et pourquoi pratiquez-vous ces sports?
Alors, pour me détendre, parce que quand on a des élèves toute la journée, on a besoin de se détendre. Et puis pour essayer de ne pas trop prendre de poids.
Ou pour la détente, et puis si possible, un peu de remise en forme.
Moi, ça me permet de décharger mon énergie négative, peut-être aussi le stress hein, qu'on peut rencontrer au sein de notre profession, et donc de me ressourcer. Et puis, vous savez bien que lorsque l'on fait du sport, on crée de l'endorphine, qui est nécessaire pour atteindre un certain bien-être.
Moi, pour ma part, pour maintenir ma ligne quand même un petit peu, me muscler un petit peu. Et puis, puis voilà, puis c'est un bon défouloir.
Voilà, et moi c'est pareil, c'est beaucoup pour décharger, pour se détendre, pour évacuer tout le stress qu'on accumule au quotidien.
Ok,
et la charge mentale.
Bah merci.
De rien.
Merci, c'est intéressant. Mais vous, est-ce que vous faites du sport ?
Oui, je fais du vélo de route 3 fois par semaine au club de Mainvilliers.
Et tu fais combien de kilomètres ?
Pendant les courses, c'est environ 40 km, mais pendant les entraînements, ça peut aller jusqu'à 100 km.
À quelle vitesse pédales-tu ?
En moyenne 35 km/h.
Qu'est-ce qui te plaît dans ce sport ?
J'aime pratiquer ce sport car c'est un sport d'équipe et aussi parce que j'aime gagner.
Et toi, Baptiste, que fais-tu comme sport ?
Je fais du VTT tout seul environ 3 fois par semaine.
Et qu'est-ce que tu aimes dans ce sport ?
Être seul et les paysages, ça me permet de sortir de chez moi.
Merci pour ces témoignages qui prouvent que les élèves bougent et ne sont pas systématiquement sur leur téléphone.
Pour conclure, faites du sport car la sédentarité tue plus que le tabac.
Poursuivons avec Anaïs et Charlotte qui vont vous parler d'équitation.
Bonjour, la France compte environ 2,2 millions de cavaliers. Nous avons voulu en savoir plus sur cette discipline, car ce sport a beaucoup de succès chez les jeunes.
Pour cela, nous avons eu le plaisir d'interviewer notre professeure, car elle pratique ce sport et connaît parfaitement cette discipline.
Bonjour Madame Imbert, vous avez accepté de répondre à nos questions qui portent sur l'équitation. Pouvez-vous vous présenter ?
Oui, bonjour à tous. Je suis enseignante en section Arcu au lycée Elsa Triolet et je pratique l'équitation depuis plus de 35 ans. Je possède des chevaux et mon mari gère également un centre équestre.
L'équitation est-il un sport ?
Écoutez, en ce qui me concerne, oui, car le cheval est un athlète et nous aussi. Il y a d'ailleurs de nombreuses disciplines aux Jeux Olympiques, donc preuve en est qu'il s'agit bien d'un sport. Maintenant, il est possible de pratiquer l'équitation en loisir, mais cela reste quand même assez physique.
Combien existe-t-il de disciplines ?
Bon, écoutez, je pense qu'il y en a plus d'une vingtaine. Donc, il y a celles qu'on appelle les disciplines classiques, qui sont aux Jeux Olympiques, l'attelage, le saut d'obstacle, le concours complet, le dressage, l'endurance. Et puis, il y en a d'autres qui sont un peu moins connues peut-être, le tir à l'arc, la voltige, le western, le pony games.
Quel est votre niveau ?
Alors, j'ai ce qu'on appelle le galop 7. C'est ce qui permet de pouvoir pratiquer l'équitation en compétition. C'est un petit peu l'équivalent, si certains connaissent, de la ceinture noire au judo.
Quelle discipline pratiquez-vous ?
Alors, je pratique ce qu'on appelle le concours complet d'équitation, c'est-à-dire sur la même journée, vous avez une épreuve de dressage, d'obstacle et de cross. Et puis, également en parallèle, je fais ce qu'on appelle du saut d'obstacle. Et de temps en temps, je vais également faire du trek, c'est un petit peu en forêt, avec la nature et une carte où il faut trouver des points de rencontre, et également de l'endurance.
Avez-vous déjà participé à des concours ?
Oui, très souvent depuis que je suis toute petite. Et cette année, j'ai eu la chance de pouvoir participer au championnat major de concours clé et d'avoir le titre de major et de l'année, donc d'être championne de France.
Êtes-vous déjà tombée à cheval ?
Oh là, oui. J'ai eu de nombreuses fractures. Une fracture du crâne, des entorses, le poignet et puis plein de petits bobos. Alors j'en profite justement pour rappeler que les accidents les plus dangereux sont souvent à pied et je souhaite rappeler que la sécurité est très importante car les chevaux sont des animaux, ils sont donc imprévisibles.
L'équitation est-il un sport de riche ?
Bah écoutez, si vous le pratiquez à haut niveau, c'est certain que cela représente un coût car l'entretien des chevaux est assez coûteux. Pour le loisir, il est tout à fait possible de pratiquer l'équitation une fois par semaine et de se faire plaisir.
Merci d'avoir répondu à toutes nos questions.
Avec plaisir.
Comme vous avez pu l'entendre, notre professeure est passionnée par ce sport et particulièrement talentueuse.
Nous avons été impressionnés par ce talent caché. Nous espérons que vous aussi.
Merci Charlotte et Anaïs pour cette belle découverte.
Le sport, c'est aussi le sujet qu'ont choisi Thomas et Médéric de Terminal CAP. Écoutons leurs interviews.
Nous avons choisi le football car c'est le sport numéro 1 dans le monde. Nous voulons savoir pourquoi ce sport suscite autant de polémiques et de débats dans les médias. Nous avons voulu en savoir plus en interviewant notre professeur. Pourriez-vous répondre, monsieur Sose, à ces quelques questions, s'il vous plaît ?
Aimez-vous le football ?
Oui, j'ai pratiqué le football pendant une dizaine d'années. Et puis ensuite, je me suis dirigé vers d'autres sports, mais j'ai toujours continué à suivre ce sport.
Que pensez-vous du rapport à l'argent et au football ?
C'est un rapport qui est un peu particulier parce qu'il est souvent mis en avant et souvent d'un point de vue négatif, en oubliant tout le côté positif, c'est-à-dire que il y a toute une économie derrière, dans les médias, il y a aussi beaucoup d'argent professionnel qui retombe sur la partie associative et donc qui sont utiles au reste de la société. plus il y a de personnes qui s'intéressent, plus il y a de recettes publicitaires et donc plus il y a d'intérêt des médias avec tout ce que ça peut engendrer en excès, en mafia, en agent, en escroquerie, etc., etc. Mais c'est un rapport qui en tout cas est toujours intéressant à regarder.
Trouvez-vous normal l'inflation des sommes d'argent dans le football ?
C'est normal d'un point de vue économique, il y a une certaine logique. Après, on peut le trouver anormal, illogique ou immoral sur d'autres points de vue, notamment quand on compare vis-à-vis d'autres secteurs d'activité plus essentiels à la société. Toujours est-il que, économiquement, c'est logique d'avoir une telle inflation, étant donné que c'est uniquement lié aux recettes des droits télévisuels et des autres recettes médiatiques, mais ça, c'est uniquement lié au fait que l'impact du football est important sur un média en termes de recettes publicitaires et donc il y a automatiquement une retombée dans le sport en lui-même.
Comment voyez-vous l'évolution de ce sport ?
C'est un peu difficile d'imaginer l'évolution de ce sport. Alors, d'un point de vue économique, on peut envisager que la bulle spéculative sur les salaires, sur les montants des transferts explose et puis qu'on revienne à des montants qu'on pouvait voir il y a 10-15 ans. On peut également continuer dans le sens actuel, étant donné que toujours plus de foot dans les médias entraîne toujours plus d'audience pour l'instant et tant qu'il n'y aura pas d'arrêt de l'audience, il y aura toujours une évolution vers le haut en termes de salaire, en termes d'indemnités de transfert.
Pensez-vous que le football est trop médiatisé par rapport aux autres sports ?
En tant que pratiquant d'autres sports, un petit peu, il mange de l'espace médiatique à d'autres sports et donc il freine le développement d'autres sports aussi, ce qui est un peu dommageable. D'autant plus que ce n'est pas forcément le sport qui médiatiquement est le plus facile à vendre en termes de spectacle, du fait du rythme qu'il a. Il y a des sports qui sont peut-être plus facilement adaptables au format télévisuel et qui ont moins eu leur chance. Le volleyball, le basketball, etc., etc.
Merci aux élèves de Terminal CAP pour cette interview intéressante. Avant de passer à la rubrique Culture, une page de publicité.
C'est bientôt l'été, l'agence de Valia vous propose un voyage exotique et inoubliable, à un prix magique et discount.
En famille, tout inclus pour 799 € par personne, demi-pension, vol aérien Paris-Bali, deux excursions au choix.
Balade en éléphant,
croisière en bateau vers Gilibala,
promenade sur l'île du Komodo,
visite du temple.
N'hésitez plus à contacter notre agence sur valia.voyage@travel.com.
Après le sport, nous passons à la culture, avec pour commencer la rubrique cinéma de Justine et Ruben Alessandro.
Salut à toutes et à tous, je suis Justine et je suis avec Alessandro et Ruben pour vous faire découvrir nos coups de cœur cinématographiques, les films qui ont bercé nos enfances et avec lesquels on a grandi. Moi, le film qui m'a marqué, c'est Blanche-Neige et les Sept Nains. Sorti en France en 1938, c'est le premier long-métrage de Disney. Il est réalisé par David Hunt, ce film est un classique de Disney. J'adore le film de Disney car il nous replonge dans un monde de l'enfance.
Et pourquoi Blanche-Neige ?
Parce que c'est le premier Disney que j'ai vu. Et toi, Ruben, quel est le film qui t'a marqué ?
Le film qui m'a marqué, c'est Oldboy, sorti le 29 septembre 2004. C'est un film de Park Chan-wook. Il est ceci car son dénouement surprenant m'a choqué. À la fin des années 80, Oda et Sue perdent la famille sans histoire. Et on le vit un jour devant chez lui. C'est que Stephen a plusieurs années dans une cellule privée. Son seul lien avec l'extérieur est une télévision. Par les vies de la télévision, il apprend la mort de sa femme, mort dont il est principal suspect. Désespéré d'être séquestré sans raison, le roi devient fou de vengeance. Il est relâché 15 ans plus tard, toujours sans explication. Oda et Sue est alors contacté par celui qui semble être le responsable de ses malheurs. Il lui propose de découvrir qui l'a enlevé et pourquoi. Les cauchemars continuent pour l'héros.
Et alors, que se passe-t-il à la fin ?
C'est la surprise. Mais je ne vous en dis pas plus, car il faut vraiment regarder les films en entier et notamment la scène finale pour apprécier. À toi, Alessandro, parle-nous des temps de film.
Je vais vous parler des Affranchis, de Martin Scorsese.
Never rely on your friends, and
always keep your mouth shut.
As far back as I can remember, I always wanted to be a gangster. They had it all just for the asking. It's like a license to do anything.
Ce film est inspiré de la vie d'Henry, célèbre mafieux ayant passé 25 ans dans la mafia avant de devenir indique pour le FBI. Ray Liotta joue le rôle d'Henry et Robert De Niro interprète Jimmy Conway, le mentor d'Henry. Il confirme avec ce rôle qu'il est fait pour les rôles de gangsters. Joe Pesci, connu pour ses rôles dans Maman, j'ai raté l'avion, L'arme fatale et Casino, joue l'ami d'Henry, Tommy, un mafieux très susceptible. Réalisé en 1990 par Martin Scorsese, ce film culte des années 90 est considéré comme un chef-d'œuvre du cinéma de gangsters. La manière dont le film se déroule m'a marqué, car ce film retrace toute la vie du personnage principal. Je trouve le casting de ce film excellent.
Merci Alessandro. Et maintenant je vais vous parler d'un programme que nous suivons cette année, Lycéens au cinéma. Ce programme est fait pour les jeunes lycéens et nous emmène voir des films, courts ou longs métrages au cinéma, Les Enfants du Paradis à Chartres. Ce sont des films que nous n'aurions pas forcément voir par nous-mêmes. Nous assistons à 3 séances dans l'année, soit une fois par trimestre. Le premier film que nous sommes allés voir est Les Sentiers de la Gloire, un film de Stanley Kubrick, qui part de la Première Guerre mondiale et de l'oppression des généraux envers leurs soldats. Voici quelques réactions des élèves qui ont vu le film.
Qu'as-tu pensé des Sentiers de la Gloire ?
J'ai pensé que ce film était bien. La scène qui m'a le plus marqué, c'est quand les soldats ont été fusillés.
Je me suis ennuyée. J'aimais pas. C'est un noir et blanc. Parce que c'est vieux.
Moi, j'ai pas trop aimé parce que j'aime pas le réalisateur. Mais j'ai bien aimé l'histoire.
C'était bien. Parce que ça parle de la guerre.
Parce que c'est intéressant.
Parce que j'ai trouvé ce film très réaliste. Il parlait de l'enfer qu'ils ont vécu à la guerre.
Dans les tranchées. Dans les tranchées.
Ah, quand ils ont mis les gens sur les poteaux, ils ont tiré.
J'ai pas aimé parce que c'était en noir et blanc. Il y a un moment qui m'a marqué dans le film, c'est quand il y a eu le moment de l'exécution, je sais pas comment on appelle ça. Et ça m'a choqué parce que ça ne savait pas.
Oui, j'aime bien. Il était sous-titré en plus, on ne comprenait pas du moment et on devait lire, donc ça a fatigué. C'était fatigant.
Merci Justine, Ruben et Alessandro. Pour clôturer la rubrique cinéma, deux élèves de terminale CAP vont préparer une bande-annonce de film.
Salut, moi c'est Percy. Avec ma famille, nous devons déménager tous les ans à cause du travail de mon père. À chaque fois, on change de maison. Mais cette fois, la maison a l'air différente de toutes celles où nous avons emménagé. Il y a des rumeurs, des événements étranges, avec des bruits, des grincements ou des voix. Que cache cette maison? Quel est son passé? D'où viennent ces rumeurs? Survivrons-nous à ce nouveau déménagement? La suite sur vos écrans prochainement.
Pour finir cette page culture, je laisse la parole aux élèves de la classe 2G1 qui vont nous parler de leur rencontre avec une auteure de bande dessinée.
Bonjour tout le monde et bonjour Shadia. La classe de 2GA1 du lycée des métiers Elsa Triolet à l'UC a le plaisir de vous recevoir aujourd'hui afin de parler de votre bande dessinée Famille Nombreuse qui est parue en 2017 aux éditions Marabout et que vous avez fait connaître du grand public. Pour expliquer un peu à nos auditeurs l'histoire de la Famille Nombreuse, voici ce que nous pouvons en dire. Les parents de Shadia, le daron et Omi, quittent la Tunisie avec leurs enfants pour s'installer en France dans les années 1960. Commence alors la découverte d'un nouveau pays, la France avec tout ce qui va avec, sa culture, son administration complexe. Pendant ce temps, la famille s'agrandit au fil des chapitres.
Bonjour, je vais vous lire une critique de Famille Nombreuse, écrite par un élève de notre classe. Il a intitulé son texte « Moi parmi les autres », pour bien montrer qu'il n'est pas facile d'être soi-même dans une si grande famille. Dans cette BD, les principaux thèmes sont la famille, bien entendu, mais également tout ce qui s'y rapporte, car chaque membre a sa place définie et doit évoluer parmi tout cela. L'humour, la façon dont les dessins sont présentés et dont les textes sont écrits illustre bien cette BD. La phrase pour moi qui reflète bien la BD est en page 95, c'est celle où le daron explique à sa fille Shadia qu'elle doit aller à l'école pour un stylo au lieu d'un balai, phrase qu'elle ne comprendra que plus tard et qui signifie qu'une bonne instruction est importante pour un meilleur travail. J'ai beaucoup aimé cette BD car on peut facilement se retrouver dans cette famille, dans l'un ou l'autre des personnages. Les parents Omi et Daron sont des personnages pleins de courage et d'amour. Ils éduquent leur enfant avec le sens des valeurs, de l'effort et du courage. Les textes et dessins sont simples et aisés à lire ou regarder. De plus, l'histoire est très authentique car l'auteur du livre est la narratrice et donc cela donne un ton plus vrai à l'histoire. Bien sûr, tout ça n'est pas simple car la maman doit gérer ses enfants, s'occuper de son logement, le père se lève très tôt pour travailler. Je pense que chaque enfant doit batailler pour trouver sa place. En conclusion, je recommande vivement cette BD qui peut plaire aux plus jeunes, pas trop quand même, mais également aux adultes. C'est une merveilleuse leçon de vie décrite par l'auteur et qui pourrait servir d'exemple. Évidemment, l'époque n'était pas la même qu'aujourd'hui, mais elle n'est pas si éloignée de la vie de certaines familles de nos jours. Une petite chose à retenir, avec beaucoup d'humour, les choses peuvent paraître beaucoup moins dramatiques qu'elles ne le sont réellement, à bon entendeur.
Nous allons maintenant vous poser à vous, Shadia, quelques questions afin d'en savoir un peu plus sur vous et sur votre travail. Tout d'abord, à partir de quand avez-vous commencé à dessiner et comment en êtes-vous arrivé à en faire votre métier ?
Alors, j'ai toujours dessiné, étant jeune je dessinais, je pense que je dessinais beaucoup plus que d'autres choses, surtout sur mes cahiers de maths, ça a toujours été là. J'ai décidé d'en faire mon métier vraiment très tard, après la naissance de mes enfants et la perte de mes parents, c'est là où j'ai décidé vraiment de faire ce que j'ai toujours voulu faire, le dessin.
Quelles études avez-vous effectuées et vous destinez-t-elle à une carrière d'auteur de bande dessinée ?
J'ai fait des études de droit, je ne sais rien à voir et donc ça ne me prédestinait pas du tout à être ni auteur ni illustratrice. Mais au final, on revient toujours à ses premiers amours, quoi. On revient vraiment à ce qui nous intéresse. Et moi, c'était l'illustration, donc naturellement, je m'y suis remise toute seule.
Pourquoi avez-vous décidé de devenir auteur et dessinatrice de bande dessinée plutôt que de rester illustratrice de livres pour enfants ?
Parce qu'avec la BD, on peut facilement aborder l'humour. Et j'aime beaucoup l'humour. Et je savais que le seul moyen de faire rire les gens, c'était à travers la BD, justement. Et le sujet que je voulais traiter s'y prêtait vraiment bien. J'aurais pas pu le traiter en roman ou autre chose. Donc la BD s'est apparue comme une évidence pour moi.
Comment vous êtes venue l'idée d'écrire sur votre famille ?
Le décès de mes parents, tout simplement. Je voulais leur rendre hommage. Et puis du coup, voilà, j'ai écrit à leur décès.
Pourquoi avoir choisi le titre « Famille nombreuse » pour votre première bande dessinée ?
Parce que ça représente bien ce qu'est cette bande dessinée et puis ça me fait penser aux cartes famille nombreuses de la SNCF. Du coup, le titre s'est imposé naturellement à moi. J'avais le titre avant d'avoir l'histoire, je pense.
Pourquoi avoir utilisé seulement 3 couleurs pour illustrer votre bande dessinée ?
Alors, le noir et blanc se prête très bien à l'autobiographie. Ça s'y prête vraiment bien. Et le jaune, parce que c'était la couleur de la tenue de mon père de travail. Donc, c'était un petit clin d'œil à mon papa, quoi.
Combien d'heures avez-vous passé par jour sur la réalisation de Famille nombreuse ?
Oula. Je peux pas, en nombre d'heures, je sais pas. En nombre de mois, je pourrais le dire, parce qu'en nombre d'heures, c'est aléatoire. Ça dépendait des planches. Des fois, il y a des planches sur lesquelles je passais facilement 2 heures et puis c'était fini. Puis des fois, il y a des planches sur lesquelles je passais 2 jours. Parce que c'est hyper complexe. Donc, je dirais, en gros, j'ai passé 18 mois à dessiner ce bouquin, ce qui est énorme.
Comment avez-vous vécu l'expérience de vivre avec 10 frères et sœurs ? Était difficile ou au contraire amusant ?
Ça dépendait des jours. Des fois, c'était amusant, des fois, c'était difficile, des fois, c'était pénible, des fois, c'était vraiment bien. Ça dépendait des jours et de l'état d'esprit de chacun. Parce qu'en fait, on vit avec les humeurs des uns et des autres. Et là, c'était multiplié par 10, quoi. Donc, ça dépendait vraiment des jours.
Avez-vous également une famille nombreuse ?
Non, surtout pas. Non, c'est bon. J'ai déjà vécu ça, je voulais pas le revivre.
Que pensent vos enfants de votre travail en tant qu'auteur et dessinatrice de bande dessinée ?
Quand elles étaient plus petites, elles trouvaient que, elles disaient, mais maman, elle dessine pas, enfin, elle dessine toute la journée, elle croit que c'est un travail. Voilà. Et maintenant, elles ont grandi, elles s'y intéressent, c'est chouette, elles me donnent leur avis, et leur avis est souvent juste. C'est sympa de partager ça avec. Mais elles sont un peu blasées, hein. Pour elles, ça les étonne plus, c'est plus le truc super. Voilà, c'est devenu normal pour elles, quoi.
Avez-vous rencontré un succès immédiat suite à l'apparition de Famille nombreuse ?
Après, tout est relatif, un succès immédiat, vraiment tout est relatif. Mais ce qui est bien, c'est que Famille nombreuse, ça a apporté un coup de projecteur sur mon travail et sur moi. Effectivement, j'ai pu me faire connaître de certains éditeurs grâce à Famille nombreuse. Donc Famille nombreuse m'a énormément apporté.
Quelle sera l'histoire de votre prochaine bande dessinée ?
L'histoire de ma famille qui part en vacances au bled.
Quels conseils donneriez-vous aux jeunes gens intéressés par la bande dessinée et voulant en faire leur métier ?
De s'accrocher, de bosser, de toujours bosser et surtout de s'accrocher et de s'éloigner des critiques négatives qui ne sont pas constructives. Si vous voulez faire de la BD, faites-le. Moi, je conseillerais, même quel que soit ce qu'on veut faire, que ce soit de la BD ou pas de la BD, si on a envie de faire quelque chose dans la vie, il faut se donner les moyens de pouvoir le faire pour ne pas avoir de regrets. Après, ça marche ou ça ne marche pas, c'est une autre question, mais déjà, d'essayer de le faire, je trouve ça extraordinaire.
Merci Shadia d'avoir passé ce moment avec nous et d'avoir répondu à nos questions. Merci également pour cette belle découverte qu'a été votre premier roman graphique dont nous rappelons le titre Famille nombreuse aux éditions Marabout.
Nous espérons que vous avez passé un bon moment en notre compagnie.
La classe de 2GA1 vous remercie pour votre attention. À bientôt, chers amis auditeurs.
Pour terminer, place à Rogi, Ayamis et Angelina qui ont préparé un jeu.
Alors, nous allons tester vos connaissances musicales avec un quiz. Il s'agit de reconnaître des extraits de musique populaire.
Pour cela, nous avons formé 2 équipes. D'un côté, Laura, Balou et Charlotte. Et de l'autre côté, Justine, Jade et Tiamel.
Chaque équipe devra reconnaître un extrait musical et donner le titre et le nom de l'artiste. Les joueurs gagneront 2 points s'ils trouvent les 2 et 1 point s'ils n'ont qu'une partie de la réponse.
Est-ce que vous êtes prêts ?
Oui !
Alors, c'est parti. Tiamel. Bonne réponse.
Une bonne réponse pour l'équipe de Jade. Ouais.
Balou.
Mais
manque le titre.
Don't mind.
Ouais. Une bonne réponse pour l'équipe de Laura.
Chamel. Yeah.
Un point pour l'équipe de Jade.
Balou.
Chris Brown, l'oreille.
Ouais, bonne réponse.
Ça fait un point pour l'équipe de Laura.
Balou.
DJ Khaled, Justin Bieber et Migos.
Oui, c'est la bonne réponse.
Trois points pour l'équipe de Laura.
Despacito. De Luis.
Bonne réponse, Laura.
Maître Gims, ça fait comme jamais.
Bonne réponse.
5 points pour l'équipe de Laura. On a donc 5 points pour l'équipe de Laura et 2 points pour l'équipe de Jade.
Nous poursuivons. Balou.
Chamel.
Bonne réponse, Chamel. Balou.
Rihanna, Diamond.
Bonne réponse, Balou. Balou.
Boy Mobile.
Bonne réponse. Another one.
Rihanna, DJ Khaled, Bryson Tiller et.
Bonne réponse quand même. Bonne réponse.
Pour l'instant, ça fait 6 points pour l'équipe de Laura et 3 pour l'équipe de Jade.
Alors avec
6 points,
l'équipe de Laura gagne le quiz radio du lycée Elsa Triolet.
Ouais.
Bravo.
Maintenant, on va vous laisser avec une petite surprise que vous a préparée Rougi, Morgane, Cyprien et Asia.
Avec mes camarades, on va reprendre une musique très célèbre. Je t'en prie, Rougi.
De que Favelas Guerilla.
C'est parti. Ça annonce du lourd.
Allons-y. Mais pas les pieds. Ici, tu sais que c'est la guérilla.
C'est ça, là-dedans du bédo, j'ai l'impression qu'ils sont faga.
Kobalade, Eldez et Ibraka. Prêt à faire des dégâts sur l'instru, s'il y a dra. Mon buzz quand t'en perds pas, faut un pet, faut que ça pète.
Faut que ça pète.
Ça bouge pas, je suis dans le banks en haut des favelas.
Des favelas.
La semaine viscère
et le dimanche j'encaisse.
Rien que j'encaisse.
Ça bouge pas, je suis dans le banks en haut des favelas.
Des favelas.
Y'a des repus du Coca-Cola. Et si tu veux, y'a de la verte ou du beau jaune Fanta. Pareil pour la reggae comme au Nouganda. J'aimerais bien dévaliser toute l'avenue Vagra. Oh. Rougiza, calme-toi. Même s'il y a dra, faudra sortir Beretta. Moi ça va, Handoulila. Même si c'est de juge, ma mine brasse les 8 mois. Allô, monsieur Buono, oui, c'est moi.
Ouragalo, ça tire dessus, c'est bien ballo. Ah, bah,
monsieur, moi.
Je suis plus en mode Zepé Kenyo.
Casquette Yamaha derrière, j'entends les gyros.
Bravo.
Ouais.
C'est sur ceci que nous concluons cette session de web radio.
Nous vous remercions.
Des intriolés.
De nous avoir écoutés. Au revoir.
Nous espérons que vous avez passé un agréable moment avec nous.
Merci bien.
Bisous.